pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous sommes à Cotonou, à l'Institut français qui a accueilli pendant 3 jours une formation de l'OCEL, Office for Climate Education. Une trentaine de professeurs sont venus de 8 pays pour échanger sur comment enseigner le changement climatique à l'école. Les formateurs et les professeurs sont avec nous.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour David Wilgenbusch.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'OCE, donc l'Office for Climate Education. Expliquez-nous ce que c'est que cet office.
Alors, c'est une fondation qui a été créée cette année, en 2018, en début d'année, par différents organismes, la main à la pâte, qui travaillent sur l'enseignement des sciences, et puis des organismes scientifiques comme l'IRD, l'IPSL, Météo France, par exemple, et avec beaucoup de partenaires en France et à l'étranger. Et le but de l'OCE, c'est de rassembler les savoir-faire des scientifiques et des éducateurs pour promouvoir l'éducation au changement climatique en France, dans la francophonie et plus généralement dans le monde.
Donc vous organisez des formations un peu partout dans le monde ?
Oui, on organise des formations et aussi on participe à des formations pour lesquelles on n'est pas les organisateurs mais auxquelles on nous invite. Et puis également on travaille à produire des ressources pédagogiques pour les professeurs pour qu'ils sachent comment et quoi faire sur ce sujet avec leurs élèves.
Alors vous-même, vous avez 10 ans d'expérience dans le domaine avec l'association La Main à la Pâte et vous avez mis 2 ans à élaborer les programmes pédagogiques. Enfin je veux dire, c'est l'OCE, c'est tout récent, ça a quelques mois, mais il y a eu un gros travail en amont.
Comme toujours, pour faire un projet de qualité, il faut prendre le temps de la réflexion. Les premières réflexions, elles ont eu lieu au moment de la COP21, en fait, à Paris. On s'est rapproché, quand je dis on, c'est la main à la pâte, l'Académie des sciences, s'est rapproché des équipes du GIEC, dont
le groupe intergouvernemental des experts sur le climat.
Bien sûr, dont une des équipes techniques est installée à Paris, Saclay. Et on est assez vite tombé d'accord sur le fait qu'il y avait un besoin très important de faire de l'éducation sur ce thème dès l'école primaire. Ce n'est pas juste une question qui s'adresse aux étudiants, à l'université, ça doit vraiment démarrer à petit niveau. Donc, ce qu'on a fait, en fait, pendant à peu près 2 ans, on a discuté avec des partenaires. La Main à la Pâte travaille sur le climat depuis des années. Et en fait, il y avait d'autres ONG que La Main à la Pâte ailleurs, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en France aussi, qui travaillaient sur ce sujet. Et aussi, dans ces pays, il y avait tout un tas d'acteurs scientifiques, des laboratoires, des instituts de recherche, des universités ou des académies des sciences, qui aussi voulaient faire des choses, qui parfois faisaient déjà des choses. Et on s'est dit, on va mettre tout le monde autour de la table pour rassembler un peu les expériences. Et donc, on a créé l'Office for Climate Education, qui est installé à Paris, mais qui en fait travaille avec un réseau de partenaires dans une quarantaine de pays.
Et l'objectif, c'est de faire à peu près 100 de formations par an. Comment est-ce que vous choisissez les pays où vous allez faire les formations et les bénéficiaires ?
Alors pour l'instant, c'est un petit peu difficile parce que comme on vient de lancer le projet, on est tout petit. Hein, l'OCE aujourd'hui, c'est 3 personnes. Ça sera bientôt 4 ou 5 personnes.
Mais, oui, mais cette émission va susciter envies.
Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça va rester une petite équipe. Et fort heureusement, en fait, le but du projet, c'est pas que nous, petite équipe à Paris, portions la bonne parole partout dans le monde. L'objectif, c'est qu'on travaille avec des partenaires qui sont implantés localement et que ces partenaires-là, on leur offre un contexte qui leur permet aussi, eux, de faire leurs propres actions. Donc, systématiquement, on essaye de ne pas intervenir tout seul, mais de co-intervenir avec des acteurs locaux, dans le but aussi qu'après, les choses puissent se faire sans nous.
Sakina Penpoint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable pédagogique de l'OCE, l'Office for Climate Education. C'est vous qui avez organisé le contenu pédagogique de la formation qui a eu lieu ici pendant 3 jours à Cotonou. Qu'est-ce que vous leur avez appris ?
Alors, le programme de la formation, il a évidemment inclus des modules sur l'effet de serre, sur ce qui se passe concrètement. Comment se déroule le changement climatique, comment ça arrive. Ensuite, on a parlé évidemment des conséquences sur l'océan et comment l'océan a un impact très fort sur ce changement climatique et qu'est-ce qui se passe. Et puis, on a parlé également de l'agriculture avec une intervenante locale qui nous a parlé du coup des effets de l'agriculture sur place, ici en Afrique de l'Ouest.
Qui est avec nous et qui nous en parlera justement tout à l'heure. Mais comment s'est organisé ces 3 jours de formation ? Il y a différents temps ?
Il y a eu des temps qui ont été consacrés à la présentation d'éducation, de projets d'éducation au changement climatique et au développement durable par les participants eux-mêmes. Et puis il y a eu des temps de discussion commune et de construction de projets pédagogiques qui sont faits du coup par les formateurs expérimentés eux-mêmes ici avec notre aide sur le changement climatique.
Alors nous avons plusieurs des professeurs et formateurs avec nous qui ont suivi cette formation. On va démarrer avec vous, Lucien Blaise Gouna, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes psychologue, conseiller d'orientation au lycée d'Aquanon à Douala, au Cameroun. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de venir suivre cette formation ?
Merci Anne-Cécile. Déjà, le RAED est en contact avec la Fondation Melapat à Marrakech.
Alors le RAED, c'est le réseau africain pour l'éducation au développement durable.
Donc nous connaissons la Fondation Melapat depuis Marrakech, depuis la COP22, à laquelle le RAED a pris part. À partir de là, on a été mis en contact avec David. On a été sollicité plusieurs reprises à passer à d'autres ateliers en France, en Italie. Mais le contexte n'a pas été favorable. Donc aujourd'hui, le RAED est là pour partager son expérience, parce que ça fait presque 10 ans que, après les formations, notre équipe, c'est une équipe interdisciplinaire, conseil d'orientation, le professeur d'histoire, le professeur de mathématiques, le professeur de physique. On a une équipe de toutes les disciplines. Donc après les formations jusqu'à master, on a fait un master en ligne avec l'université Ka Foscari.
Donc vous, en fait, vous êtes venu plus pour représenter le réseau que, on comprend bien, vous n'avez pas forcément besoin d'être formé.
Non, on a besoin d'être formé, bien sûr. Parce que nous, au RAED, on se forme en permanence. Vous vous rappelez bien, vous m'avez donné un cours sur la communication environnementale avec la francophonie.
Ah oui, j'ai fait un MOOC.
Donc
MOOC, oui.
Voilà, effectivement, au RAED, on se forme tous les jours. On a compris qu'il faut se mettre à jour.
Donc vous vous formez et vous faites des formations. Donc en fait, vous faites partie, comme disait David, vous faites partie des réseaux sur lesquels l'OCE peut s'appuyer.
Oui, tout à fait. Le RAED, c'est un des réseaux importants. Il y a d'autres réseaux, bien sûr. Il y a le réseau d'éco-écoles, on en discutera dans quelques instants, puisqu'on a un représentant ici. Et oui, il y a beaucoup de réseaux sur lesquels on peut s'appuyer. Heureusement, beaucoup de gens font ça. La difficulté, en fait, c'est que c'est aussi ça qui nous a conduit à créer l'OCE. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui faisaient des choses formidables et que tout le monde réinventait un peu la roue dans son coin. Et qu'on avait besoin de fédérer un peu tous ces efforts et de faire partager l'expérience des uns et des autres.
Alors c'est d'autant plus vrai dans certains pays où l'enseignement du changement climatique n'existe pas beaucoup. Bonjour Amar Souleyman.
Bonjour, merci.
Vous êtes formateur de professeur du secondaire en Mauritanie. Oui. Alors pour vous, c'était une découverte de venir ici.
Effectivement, comme vous savez, la Mauritanie, c'est un pays désertique, presque à 100%. C'est un pays qui est à 720 km sur l'océan Atlantique. C'est un pays qui est classé, d'après le rapport de GIC, dans la zone rouge, les pays les plus menacés par le changement climatique. Donc, c'était pour nous l'occasion de venir assister ici, donc à ce séminaire, pour en profiter, voir comment on peut changer les modules au niveau de notre contenu scolaire et changer la méthode d'enseignement de nos professeurs.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignement du changement climatique en Mauritanie.
Non, c'est totalement absent dans nos programmes scolaires. Donc, après notre retour, on va essayer de voir comment donc, améliorer les contenus scolaires pour inclure donc, cette nouvelle démarche, surtout au niveau de l'éducation au changement climatique.
À vos côtés, il y a Vanessa Linda Capché. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante au lycée de Badjango, c'est à Garoua, dans le nord du Cameroun. Mmh. Alors vous, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de venir participer à cette formation ?
D'accord. Déjà, le changement climatique me tient déjà à cœur. Et vu que dans nos lycées, on n'enseigne pas cela beaucoup plus à nos élèves. Et étant donné que l'occasion m'est venue de pouvoir assister d'abord pour mieux me former sur comment enseigner le changement climatique aux élèves.
Et vous êtes professeur d'informatique, non ?
Oui, je suis professeur d'informatique. J'ai dit la question du changement climatique. Après, j'ai pris goût au changement climatique après la COP21. Où j'ai soumis un projet sur le reboisement des 100 projets pour le climat organisé par Ségolène Royal tout juste après la COP21. Donc c'est pendant cette COP21 que j'ai pris goût que finalement, nous, on a besoin de faire des actions dès le bas pour pouvoir sauver ce climat.
Et donc, vous êtes venu ici pour vous former, et c'est un message important parce que du coup, il n'y a pas besoin forcément d'être professeur des sciences, ou voilà, c'est ouvert à tous les professeurs.
Oui, c'est ouvert à tout discipline. En fait, c'est chaque personne devait imprégner, avoir des bonnes aptitudes pour pouvoir sommer le climat. Ce n'est pas seulement destiné aux professeurs d'environnement ou quoi, tout le monde peut avoir, et même les élèves.
À vos côtés, Ramat Kama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formateur à l'Académie de Kaola, qui est coordonnateur du programme Éco-École et du Réseau National des Éco-Citoyens au Sénégal. Alors, en tant que coordinateur du programme Éco-École, c'est un peu comme Lucien Blaise Kouna. Vous, vous représentez un réseau ici. Vous n'étiez pas, comme par exemple Amar Souleyman, béotien en termes de changement climatique.
Oui, en effet, nous avons expérimenté ce programme depuis 2010. Et c'est d'ailleurs le programme qui a été présenté par l'État du Sénégal pour sa candidature au prix UNESCO 2015 sur l'éducation au développement durable. Et donc, nous avons senti la nécessité, en tout cas, de commencer par une région très impactée par les préoccupations environnementales en général et le changement climatique en particulier, c'est la région de Kaolack. N'est-ce pas? Et donc, à travers ce programme, nous souhaitons un ancrage, d'abord institutionnel, puisque c'est une question de connaissance, de compétences et d'état d'esprit. Donc, passer par l'école, donc avec un bureau au niveau de l'inspection d'académie, au niveau des inspections départementales, mais aussi un responsable environnement dans chaque école de l'académie. Et nous espérons pouvoir, avoir la connexion nécessaire pour qu'il y ait une généralisation au niveau du Sénégal, mais également un link avec tous les pays, d'abord ouest africains et pourquoi pas africains et du monde, puisqu'il n'y a pas de frontières sur la question du climat.
Et c'est pour ça que vous êtes venu ici, pour agrandir votre réseau, plus voilà. Que pour apprendre sur le fond ce qu'est le changement climatique.
Voilà, en fait, nous avons engrangé pas mal d'expériences et on est nous-mêmes environnementalistes, donc on peut expérimenter sur la question. Mais le fait d'échanger, justement, et ici, on a appris des méthodes assez innovantes. Hein. Là, c'est vrai que nous expérimentons également ce qu'on appelle la stratégie de résolution de problèmes. Et donc une méthode active. Et là aussi, nous avons eu l'intérêt de voir que justement, ce séminaire allait se focaliser justement sur la pédagogie active. Donc c'était pour nous un grand intérêt d'échanger nos expériences en matière de pédagogie active, mais également se mettre en réseau avec toutes les structures ici présentes.
Oui, nous allons parler dans un instant justement des approches éducatives de l'OCE qui sont assez novatrices.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Son tête, son tête, la Liga, oui.
Cuba du Vent sur RFI, nous sommes au Bénin, à l'Institut français de Cotonou, où s'est déroulée pendant 3 jours une formation sur comment enseigner le changement climatique à l'école avec l'OCE, l'Office for Climate Education, à destination de professeurs africains venus de 8 pays. Et le principe, c'est que ce sont des chercheurs locaux qui forment ces professeurs. Alors bonjour Jeanne Zunji Ekpon.
Bonjour madame.
Vous êtes directrice du laboratoire génétique écologique à l'université d'Abomey-Calavi. Vous avez passé une matinée donc avec ces professeurs et ces formateurs. De quoi leur avez-vous parlé ?
Aux étudiants, j'ai parlé de l'impact du changement climatique sur l'agriculture et la biodiversité. Dans un premier temps, j'ai montré que de tout temps, le climat a évolué avec la nature. C'est le climat qui est à la base de la spéciation, c'est-à-dire de la naissance des espèces, qu'elles soient animales, végétales ou microbiennes. Et ces éléments de la nature ont toujours évolué avec le climat. Ce qui a changé, ce qui est nouveau, en fait, ce sont les activités humaines qui ont entraîné le changement climatique et surtout l'agriculture industrielle. Nous avons parlé de ça, nous avons parlé de la biodiversité, les composantes de la biodiversité, comment ces composantes évoluent. Et on a terminé par des propositions concrètes,
comme
ce
quoi?
Qu'il faut faire pour essayer d'atténuer le changement climatique.
Alors,
et
par
ma
exemple,
proposition, c'est l'agroécologie. C'est l'agriculture qui utilise les intrants naturel.
Alors il faut expliquer ce que c'est que l'agroécologie, on en parle souvent dans C'est pas du vent, c'est une agriculture qui mise en fait sur les écosystèmes naturels et leur ingéniosité, c'est écologiquement intensif comme on dit.
Oui, tout à fait. L'agroécologie, c'est l'agriculture qui utilise comme intrant fertilisant tout ce qui est naturel autour de soi, dans son milieu. L'agroécologie est basée sur ce qu'on a naturellement dans le milieu.
Alors par exemple, si on prend un exemple concret.
Si on prend un exemple concret, si vous prenez la région d'Avrancourt, pour fertiliser le sol, il faut utiliser la cendre, il faut utiliser du compost à partir des débris végétaux. Dans n'importe quel village d'Afrique, on a des débris végétaux. Et à partir de ces débris végétaux, on peut fabriquer du compost pour fertiliser le sol. Il n'y a pas que la fertilisation. Bien sûr, il faut l'entretien aussi des cultures. Et pour l'entretien des cultures, on peut utiliser des pesticides naturels, des extraits de nîmes, des extraits de graines de papaye. Il y a pas mal de recettes qui existent. Il suffit tout simplement qu'on le veuille.
Alors, quel lien avec le changement climatique ?
Quel lien avec le changement climatique ? L'agriculture industrielle fait partie des causes du changement climatique.
Alors, c'est ça qu'il faut expliquer. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que les engrais chimiques, le glyphosate, ce qu'on utilise comme engrais chimique, ça entraîne des molécules qui engendrent des gaz à effet de serre.
Parce qu'elles sont principalement ces molécules issues des énergies fossiles.
Exactement. Ces molécules issues des énergies fossiles entraînent en fait des gaz à effet de serre, des modifications du climat. Et ces modifications du climat ont un impact sur la biodiversité et sur l'agriculture et sur la santé humaine. Et pour remédier à ça, il vaut mieux utiliser les intrants naturels pour l'agriculture de proximité.
Sakina Penpoint, c'est la logique des formations de l'OCE de faire intervenir des scientifiques locaux ?
Oui, exactement. On essaye, comme David Vilgambus l'a dit tout à l'heure, on essaye de travailler en partenariat avec les acteurs locaux, les ONG, etc. Et aussi avec les scientifiques. Les scientifiques, ce sont eux qui pourront nous parler du contexte local, donc des problèmes locaux, des problèmes liés au changement climatique qui sont locaux. Ils ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Et donc ces problèmes, ils sont liés à des solutions. Enfin, on cherche des solutions par rapport à ces problèmes. Et c'est pareil, ces solutions d'adaptation ou même d'atténuation parfois, mais en tout cas ici plutôt d'adaptation, ces solutions, elles sont différentes en fonction des pays, en fonction des climats qu'on a dans chaque pays, en fonction de la biodiversité qu'on a dans chaque pays et en fonction des écosystèmes qu'on a.
Oui, donc évidemment qu'il serait idiot de faire une formation sur les changements climatiques en Afrique similaire à une formation sur les changements climatiques au Chili ou en Indonésie. David Vilgenbus, il y a au-delà de cet impératif de localiser les enjeux, j'ai envie de dire, des principes pédagogiques qui sont particuliers à l'OCE.
Oui, mais qui n'ont pas été inventés par l'OCE. Ils sont particuliers au sens où on les a adoptés et on les partage avec, avec les partenaires qu'on a rassemblés dans ce projet. Le premier de ces principes, c'est que l'enseignement qu'on met en avant, c'est un enseignement qui est basé sur les faits et sur la science. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille avec des scientifiques et c'est pour ça qu'on a eu des ateliers scientifiques là-dessus. Sur un thème comme le climat, c'est essentiel de distinguer les faits des opinions et c'est aussi essentiel de savoir comment les scientifiques savent ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'on ne sait pas. C'est au moins aussi important de savoir ça que de savoir les choses en elles-mêmes, c'est de savoir comment on les sait. Deuxième principe, s'agissant du climat, c'est une thématique qui est éminemment pluridisciplinaire. C'est pas qu'une question de physique de l'atmosphère, c'est pas qu'une question de chimie des gaz à effet de serre, c'est pas qu'une question de biologie ou d'agriculture, c'est pas qu'une question de géographie, c'est pas qu'une question de civisme, c'est un petit peu tout ça finalement. D'ailleurs, on l'a vu dans la formation, on avait des gens qui venaient de sciences humaines et sociales et de gens qui venaient des sciences tout court. Et troisième grand principe, c'est que on apprend en faisant. On apprend en faisant. Il ne s'agit pas simplement de recevoir des discours tout faits sur qui vont nous expliquer ce que c'est que le changement climatique et qui vont nous faire la leçon sur ce qu'il faut qu'on fasse. On pense qu'avec les enseignants, mais aussi avec les élèves, qu'il faut mettre les apprenants en activité.
C'est ce qu'on appelle la fameuse pédagogie active.
Oui, alors en fait, il y a des pédagogies actives. Mmh. Il y a la pédagogie de projet, où, par exemple, on peut mettre en place un projet de reboisement des écoles, comme ça a été dit tout à l'heure. On peut être dans de la résolution de problèmes, ce qu'a évoqué Rama tout à l'heure, ou dans de la pédagogie d'investigation, où en fait, on se pose des questions, on va essayer de mettre en place un protocole de recherche, on va faire des expériences, on va analyser, on va débattre, on va conclure, etc. L'idée, c'est que vraiment, on va chercher ensemble la réponse à nos questions.
Alors justement, Amar Souleymane, vous qui êtes l'élève béotien sur le changement climatique, oui, de cette formation, oui, est-ce que cette pédagogie active, ça a marché sur vous? Qu'est-ce que vous, oui, avez appris durant cette formation?
Oui, merci. Nous, en Mauritanie, on a un programme des sciences qui est en chantier. On a déjà fait un pas avec la main à la pâte.
Alors la main à la pâte qui est une association de vulgarisation scientifique.
Voilà. Donc on a déjà fait un pas et là, on voudrait encore... Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est un pays concerné par cette menace, on voudrait inclure dans notre programme des activités au niveau des contenus scolaires, sur l'éducation, au niveau du changement.
Mais alors, climatique. Qu'est-ce que vous avez appris ici,
justement,
là-dessus?
On a appris beaucoup de choses. D'abord, la façon de faire des expériences très simples, à partir du matériel de bord. Avec un petit matériel qui n'est pas coûteux, déjà on peut faire montrer à nos élèves énormément de choses, énormément d'expériences.
Quel genre de matériel?
Moi je peux dire que c'est du matériel de récupération, on peut dire. C'est des verres, c'est des... on peut dire des fioles, des tibes à essai,
Mais il n'y a pas besoin d'un laboratoire entier, voilà, quoi. On peut faire des petites démonstrations.
C'est du matériel très coûteux de l'extérieur. Alors que c'est des choses qu'on peut retrouver localement chez nous et avec ça, on peut développer énormément de choses. Ça, on l'a appris hier, surtout au niveau de l'explication de l'effet de serre, puisqu'on est venu avec plusieurs définitions de l'effet de serre. Avec une petite expérience, et on a vu comment montrer aux élèves qu'est-ce qu'est l'effet de serre. Avec une petite expérience.
C'est dommage qu'on soit à la radio parce que les auditeurs auraient bien besoin d'avoir accès à cette démonstration.
Voilà. Donc aujourd'hui, on a pris l'effet du changement du climat sur l'agriculture, sur la biodiversité. C'est très intéressant, voyez, d'apprendre toutes ces choses-là.
Vanessa Linda Capché, vous êtes vraiment dans la pédagogie active puisque vous avez, en tant qu'enseignante d'informatique à Garoua dans le nord du Cameroun, mis en place un projet avec des élèves sur le terrain qui s'appelle Moringa Africa. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
En fait, Moringa Africa ne se concentre pas uniquement sur les élèves. En fait, il s'agit de tout le monde. Il faut qu'une personne puisse avoir un arbre. C'est l'idée du projet qui est derrière Moringa, fait qu'une personne puisse avoir un arbre, c'est-à-dire il plante son arbre, il entretient cet arbre. Des sortes pour compenser pour compenser le carbone qu'il dépense tous les jours. En fait, c'était ça l'idée.
Et parce qu'il faut rappeler que, puisqu'on est dans la pédagogie, les arbres absorbent le carbone de l'atmosphère. Donc quand on plante un arbre, on retire quelque part du carbone qui a été émis dans l'atmosphère. Oui, et du coup, vous expliquez tout cela aux personnes qui font partie de votre projet. C'est comme ça que vous faites de la pédagogie sur le changement climatique.
Évidemment, on fait une sensibilisation avant, en amont, et après maintenant on fait l'action de planter des arbres, que chaque personne puisse le faire également. Et également la participation ici durant le séminaire, on nous a montré beaucoup d'expériences sur comment d'abord expliquer l'effet du changement climatique à plusieurs personnes, au niveau de l'effet de serre et également aussi l'action de l'océan sur ce changement climatique. Et si comment aussi expérimenter cela avec tout le monde. Là, ça serait plus pratique, plus actif.
Et comment on explique par exemple le changement climatique? Vous pouvez le faire pour les auditeurs là?
Déjà, si on veut prendre un cas simple de l'effet de serre, comment est-ce que mieux expliquer l'effet de serre? On peut prendre un exemple très simple. Une personne utilise son verre, dans un verre, il met une quantité d'eau, il dépose à côté sur le soleil, il couvre peut-être avec un autre bol en verre, de telle sorte que l'air n'entre pas dans l'expérimentation, dans le verre qui était déposé avec de l'eau. Et de l'autre côté, il met un autre verre. Et il va évaluer, il va voir qu'il y aura un changement après un temps bien précis. Il va voir qu'il y a un changement dans les deux expérimentations. Il y aura un verre qui va chauffer plus que de l'autre. Et alors, c'est le verre qui est couvert avec du bocal en verre qui pourra montrer vraiment que si on n'agit pas pour réduire les gaz à effet de serre, il y aura plus d'impact par rapport au fait qu'on agit sans vouloir toutefois aider le climat.
Ouais, parce qu'on voit en fait le verre qui est couvert, j'imagine qu'il y a de la buée qui se dégage et voit que ça transpire
et ça reste toujours. Ça ne sort pas, ça ne se dégage pas. Ça reste localement.
Oui, Amar Souleymane.
Ajouter seulement l'expérience qu'elle expliquait, c'est tellement intéressante, parce qu'à la place du verre, si on mettait un morceau de chocolat ou bien de beurre, et si on n'agit pas vite, on va les perdre. Voilà. Et
ça c'est le gourmand qui parle.
ça explique l'effet de ça. Puisqu'on a mis si on mettait le morceau de beurre, pendant quelques instants, il va se fondre. Donc, ça explique que si les États ou bien les gouvernements n'agissent pas rapidement, on va tout perdre.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi. Mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes au Bénin, à l'Institut français de Cotonou, où s'est déroulée pendant 3 jours une formation sur comment enseigner le changement climatique à l'école, à destination de professeurs et de formateurs venus de 8 pays africains. Une formation organisée par l'OCE, l'Office for Climate Education. Kamat Kama, vous êtes donc formateur à l'Académie de Kaolack au Sénégal et puis coordinateur du programme Éco-École. En quoi consiste ce programme ?
Voilà, la quintessence de ce programme, c'est la promotion de l'éco-citoyenneté par une amélioration des connaissances, des compétences, mais surtout de l'état d'esprit pour une adhésion à la cause environnementale, un engagement et une appropriation.
Et comment vous faites naître cet état d'esprit ?
Voilà, en passant par l'école. Hein, parce que avec l'approche par les compétences, on dit que justement, l'école doit amener les communautés à résoudre leurs problèmes courants de société, et les dégradations environnementales constituent aujourd'hui des problèmes courants de société, en particulier la problématique du changement climatique. Et voilà pourquoi est né ce programme Éco-École, pour en tout cas essayer d'inverser la tendance des actions malveillantes en passant par les élèves. Et ceci, à partir de 3 ans, ce qu'on appelle la case des tout-petits au Sénégal, hein, les tout-petits, n'est-ce pas ? Nous avons une affiche où vous voyez un élève de 3 ans en train de planter un arbre. Vous voyez ? Donc, à partir de 3 ans jusqu'au bac, on pense que si l'individu participe à ce programme Éco-École, avant d'avoir son bac et partir à l'université, c'est un autre citoyen, c'est une autre mentalité, c'est un autre état d'esprit.
Là aussi, c'est une graine qui va germer.
Voilà. Et par exemple, nous avons, pour la pédagogie active, hein, nous organisons des expositions pendant chaque période de COP. Par exemple, pour
les
la préparation
des
de
Nations Unies sur
la
le
COP
climat.
24, qui se prépare déjà, avec l'Alliance française. Justement, nous organisons une exposition et les élèves viennent visiter avec leur chef d'établissement, avec les clubs environnement et autres. Et là, ils découvrent c'est quoi le changement climatique, quelles en sont les causes, quelles en sont les manifestations, les conséquences, et surtout quelles réponses on peut apporter en termes d'adaptation et d'atténuation, et quelles réponses scolaires justement on peut apporter. Et donc, comme réponse scolaire, il y a par exemple le reboisement, la création de bois d'école.
Et vous touchez combien d'écoles au Sénégal aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on commence, comme je l'ai dit tantôt, par l'Académie de Kaolack. Et au moment où je vous parle, il y a 110 établissements qui sont déjà enrôlés. Et donc, le collectif des chefs d'établissement s'est engagé cette année. Et c'est ce collectif qui a parrainé la prochaine exposition. Ils se sont engagés pour une généralisation pour l'année 2018-2019.
Lucien Blaise Kouna, vous, avec votre réseau, le RAED, le Réseau africain pour l'éducation au développement durable, vous êtes implanté dans beaucoup de pays en Afrique. Vous touchez beaucoup de monde déjà ?
Oui, nous sommes en place, puisque chaque fois qu'on participe à un événement international, on met en place un point focal. On a un point focal en Côte d'Ivoire, nous avons un point focal au Maroc, bien sûr au Cameroun qui est le siège, au Burkina Faso, parce que dans les formations initiales en master, nous avons les camarades qui sont également là-bas. Nous avons également un point focal en Allemagne et en France.
Et qu'est-ce que vous mettez en priorité pour toucher un maximum de monde en sensibilisant au changement climatique ?
Il faut savoir que le réseau africain pour l'éducation du développement durable a commencé avec la ville de Douala, avec la communauté urbaine, dans le cadre du projet Agenda 21. Après une enquête en 2009, on a montré que les enseignants, 9 ans après le lancement des OMD, que les enseignants n'étaient pas outillés, n'étaient même pas informés sur les OMD à l'époque.
Donc, cette enquête des millénaires pour le développement.
Donc, en 2009, la communauté urbaine a lancé dans les formations, séminaire des renforcements en capacité, également jusqu'au master. Il y a donc l'appropriation à notre niveau. Donc, après l'appropriation, la communauté urbaine a initié 4 écoles, éco-écoles. Donc, ce sont donc les membres des équipes Agenda 21 qui sont devenus le RAED. Les réseaux africains pour l'éducation du monde.
Donc ça, c'est, on va dire, l'arcane un peu institutionnel, mais concrètement, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut faire passer dans les écoles comme message ? Comment faut s'y prendre pour parler du changement climatique et faire comprendre aux gens tout ce dont on parlait, quoi, comment ça fonctionne, et semer les petites graines dont parlait à l'instant Kamat.
On a compris que pour que le message passe, il faut passer par les enseignants. Parce que l'UNESCO le dit bien, l'école, le changement climatique commence par l'école. On ne change pas le climat, on change les mentalités. Et le seul médiateur, pas le seul, l'un des médiateurs, c'est l'enseignant. Et donc, nous, on a donc pris un engagement avec l'UNESCO en 2014 de renforcer les capacités de 5000 éducateurs et formateurs à l'horizon 2019.
Ah, c'est bientôt.
Voilà. Et le projet que je défends ici, les personnels scolaires à l'école changement climatique travaillent dans cet horizon 2019. On a, après 3 ans de fonctionnement, parce qu'on a lancé avec la conférence de la DED, la décennie, on a formé plus de 1500 enseignants. Et on a pu influencer plus de 80 écoles, écoles primaires et écoles maternelles.
Oui, ça démarre dès le plus jeune âge.
Oui, ça a démarré. C'est un projet qui est en cours.
Merci. Ici, autour de la table, il y a énormément de bonne volonté. On sent que tout le monde va dans le même sens. Ça fait du bien, mais c'est vrai que Jeanne Zoudji-Ekpon, vous qui êtes scientifique, il y a quand même urgence face au changement climatique. Alors, ça donne de l'espoir, tout ce qu'on entend autour de la table, mais il faut aller vite, il faut aller fort, il faut changer d'échelle.
Tout à fait. Ça donne de l'espoir, c'est encourageant de voir qu'il y a des enseignants de tous les niveaux, niveau primaire, secondaire et universitaire, qui s'engagent dans la lutte. Mais il faut reconnaître que pour aller vite, il faut que les décideurs prennent leurs responsabilités.
Faudrait faire une formation pour décideurs politiques.
Non, mais je n'oserais pas dire ça. Les décideurs politiques.
Oh, mais vous pouvez, je pense.
Ah non, je n'irai pas jusque là. Ils savent ce qu'ils ont à faire, mais il
vous
faut les inciter à prendre leurs responsabilités et à décider au moment où il faut le faire. Il ne faut pas laisser les choses courir parce que le rapport du GIEC le démontre très bien. Le changement climatique impacte la biodiversité. Le changement climatique a des impacts négatifs sur la biodiversité, sur l'agriculture. Et il faut aller vite, sinon dans quelques décennies, ce serait trop tard. Mmh. Mais on a de l'espoir parce que ceux qui sont venus à la formation, ce sont déjà des acteurs du terrain qui sont engagés chez eux pour faire quelque chose. Et je pense que nos décideurs auront du courage pour prendre les bonnes décisions. C'est ce que je veux dire.
David Wilgenbus.
Oui, c'était pour rebondir sur votre boutade. Il faudrait faire des formations pour les décideurs. Et en fait, on le fait aussi.
Alors,
c'est pas forcément
nouvelle.
Des formations, mais on fait de la sensibilisation. On l'a fait à Kuala Lumpur en mai dernier. Il y avait une réunion avec des responsables des académies des sciences, des ministères de l'environnement, de l'énergie, de l'éducation. On l'a refait dans le Pacifique. On va le refaire l'année prochaine.
Mais quel niveau, enfin, qui sont ? Parce que derrière ce mot de décideur, il y a beaucoup de réalité, en fait.
Alors, nous, nos interlocuteurs, ça va être au niveau ministériel. Donc, des ministres ou premiers ministres. Là, par exemple, on est en train de planifier un événement qu'on appelle de haut niveau aux îles Fidji, qui va rassembler des décideurs, c'est-à-dire des ministres et des premiers ministres, des chefs d'État de différents pays de la zone Pacifique et qui sont très touchés par le changement climatique. Le but, et aussi on implique du haut niveau du côté scientifique, c'est-à-dire des académies des sciences, etc. Le but, c'est à la fois d'agir par le haut, de façon à ce que les États se bougent. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure, il y a encore beaucoup de pays dans lesquels l'environnement ou le climat n'est même pas dans les programmes scolaires. Donc, en agissant par le haut, on peut arriver à ça. Et il faut continuer aussi d'agir par le bas, entre guillemets, c'est-à-dire former et accompagner les enseignants qui sont vraiment eux qui peuvent faire des choses.
Oui, parce qu'en fait, il y a un risque, finalement, avec toutes ces formations dès le plus jeune âge, comme vous disiez, dès 3 ans, c'est qu'il y a un décalage entre les citoyens qui peuvent être extrêmement sensibilisés. On le voit de plus en plus, les citoyens se mobilisent, font des manifestations, les youtubeurs s'engagent, les gens sur les réseaux sociaux s'engagent, etc. On voit qu'au niveau des citoyens, ça bouge, mais au-dessus, ça bloque un peu, que ce soit au niveau politique, au niveau des gros industriels, etc. Il y a quand même un décalage qui se crée. Or, c'est au niveau politique quand même qu'on trace la route.
Ce décalage, il n'est pas toujours aussi marqué qu'on l'imagine. Par exemple, en termes d'industrie, je parle pour la France, qui est un contexte que je connais mieux, les émissions carbone du secteur industriel diminuent depuis 20 ans.
Enfin, les émissions globales de la France sont reparties à la hausse.
Mais les émissions de la France repartent à la hausse.
Oui,
mais si on regarde pourquoi elles repartent à la hausse, c'est pas les industriels, c'est les ménages. C'est-à-dire, c'est vous et moi. Enfin, vous, vous vivez ici, mais moi, je vis en France.
Non, non, moi, je vis à Paris.
Vous vivez à Paris aussi. Donc, c'est vous et moi, c'est la voiture individuelle, c'est l'alimentation, c'est la consommation de nombreux, de biens de plus en plus nombreux, c'est tous les appareils qu'on utilise. Et en fait, effectivement, depuis la COP21, les émissions de CO2 de la France ont augmenté de 3%, alors que... On est soi-disant les champions du monde de la lutte contre le climat.
Nous avons en tout cas un champion de la Terre.
Mais non, mais ça veut dire qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a des gros progrès qui sont faits, et il y a des secteurs pour lesquels il y a encore beaucoup à faire, et y compris au niveau des individus, il y a beaucoup à faire. On voit en ce moment, il y a un gros débat autour des prix de l'essence, etc. La voiture, c'est un problème. Vis-à-vis du changement climatique, c'est un problème.
Et oui, il y a une manifestation là, qui est prévue le 17 novembre parce qu'il y a des taxes qui ont été mises en France.
Alors, bien sûr qu'on peut comprendre que beaucoup de gens dépendent de la voiture pour aller travailler, par exemple. Il y a aussi beaucoup de gens pour qui l'utilisation de la voiture, c'est un choix. Et donc, il faut faire de l'éducation chez les jeunes, mais aussi chez les plus âgés, et pas que les décideurs.
Est-ce que vous pensez, et ça sera ma dernière question, et on peut faire un tour de table avec cette question, que dans votre pays, les choses sont en train de changer, Lucien Blaise-Kouna, au Cameroun ?
Oui, les choses sont en train de changer au niveau de l'État. L'État est mobilisé depuis la création du ministère de l'Environnement et toutes les structures. Le Cameroun a ratifié presque toutes les conventions relative à la lutte contre le changement climatique.
Alors ça, c'est sur le papier, mais
sur le papier, maintenant, c'est sur le terrain, il faut beaucoup agir. C'est pour ça que l'Office Climate of Education, la Fondation, donne vraiment la possibilité aux enseignants d'agir. Et moi, j'ai retenu un défi, un enjeu au terme de cette formation. C'est l'enjeu, chez nous au Cameroun, on est depuis 2014, tous les enseignants sont dans la logique de la peau par compétence. Donc l'enjeu, c'est de faire la formation continue. C'est ce que l'ORED fait. L'ORED est la première institution au Cameroun, pour ne pas dire en Afrique noire, à avoir intégré la notion d'éducation de voie durable dans le milieu enseignant, dans les écoles. Nous sommes pionniers dans ce domaine-là. Et partout où nous sommes allés, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup d'expérience. Le deuxième enjeu maintenant, c'est de revoir ce qu'on appelle les progressions. Parce qu'on a toujours dit qu'il y a un déséquilibre entre les progressions, c'est-à-dire qui sont imposées par le ministère, et l'appropriation.
Et oui, bien pour sûr, que ça devienne le plus concret possible c'est un enjeu. Au niveau des enseignants.
Donc il faut le calendrier.
On arrive à la fin de l'émission, oui. Donc on va demander, excusez-moi, aux autres intervenants, Amar Souleymane, est-ce que vous avez l'impression qu'en Mauritanie, il y a un début de prise de conscience tant au niveau des décideurs que des citoyens ?
Oui, effectivement, puisque nous, en Mauritanie, nous n'avons pas avant une culture qui est liée au changement climatique. Mais actuellement, les choses commencent à bouger. D'abord, il y a la réduction de l'émission en gaz CO2 était à 22,5% pour l'année 2030.
C'est déjà un pas.
Mmh. Deuxièmement, la participation à ce séminaire. Le ministère, donc, il a dépêché des gens, des professionnels de l'éducation en sciences pour qu'il en profite de ces séminaires. Mmh. Ensuite, l'éducation, donc, au niveau du changement climatique doit concerner tous les acteurs scolaires. La famille scolaire, pas seulement l'enseignant qui va apporter son cours, mais l'élève, le directeur, le gestionnaire et le parent d'élève. Donc tout un groupe de gens donc, qui va diriger ou bien doit s'occuper de cette éducation au niveau du changement du climat. Merci.
Vanessa Linda Capché, au Cameroun, dans le nord du Cameroun, est-ce que ça bouge ?
Dans le nord, déjà, ça bouge un peu, mais pas vraiment comme il le faut, puisque apparemment la sécheresse sera énorme dans la zone Sahel, puisque le nord, c'est dans la zone Sahel, dont le nord du Cameroun serait également touché. Donc, c'est vrai qu'actuellement, on a pensé lancer le système de éco-jogging, c'est-à-dire que pendant le faire le sport, on fait...
ramasse les
ordures et tout pour nettoyer la ville, et également aussi à plus faire de reboisement. Puisque on a beaucoup besoin de cela dans la zone du Nord avec la sécheresse.
Avec Moringa Africa,
vous avez
planté combien d'arbres ?
Actuellement, on a fait c'est pas nous qui l'avons fait, mais on a fait des reboisements participatifs numériques. C'est-à-dire qu'on lance pendant une période sur les réseaux sociaux, on appelle les gens à faire des reboisements chacun chez soi.
Donc c'est difficile de comptabiliser.
Voilà, c'est difficile de comptabiliser, mais en plus de cela, ces personnes donnent un message qui va aussi permettre à inviter d'autres personnes également à faire du reboisement. Mmh. Mais sinon, on compte lancer des reboisements où nous-mêmes pourrons avoir l'effectif exact de ce que nous avons pu faire sans toutefois utiliser le numérique.
Mmh. Ramat Kama, au Sénégal, est-ce que ça évolue?
Oui, ça évolue et j'en profite pour signaler également qu'il y a l'Académie de Dakar qui est présente avec Mme Niaye et M. Fall. Là aussi, avec la formation d'enseignants et l'expérimentation en tout cas d'activités pratiques d'adaptation. Mais il faut dire qu'avec les décideurs aussi, vous savez qu'il y a la décentralisation au Sénégal avec la communalisation intégrale. Et donc là aussi, les maires commencent à, puisque c'est une compétence transférée, à prendre en charge ces questions. Et au niveau du réseau, nous, tous les deux ans, nous primons, en tout cas, les maires qui se distinguent le mieux. Et justement, celui qui a la médaille verte actuellement, c'est le maire de Kermadiabel, M. Aline Kébé, que je salue au passage. Et il y a d'autres maires qui s'approchent. Il y a le maire de Gandiaye, par exemple, qui nous a approchés pour avoir un projet de résilience de sa commune au changement climatique qui s'appelle G-Climat, comme Gandiaye Climat. Et donc, voilà, donc ça veut dire que les choses commencent à bouger. Et Kaolack, ma propre ville, il y a donc ce qu'on appelle Kaolack Ville Verte, qui est un projet également d'adaptation au changement climatique. Donc les lignes sont en train de bouger.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous parlez du niveau des villes. La semaine prochaine, à Marrakech, aura lieu Africité. Nous y serons avec l'équipe de C'est pas du vent pour donner la parole justement à des maires qui agissent concrètement sur le terrain dans la lutte contre les changements climatiques et pour la préservation de l'environnement. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Marc Fichet pour l'installation de ce studio à l'Institut français de Cotonou, à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine à Marrakech, donc même planète, même heure.
Siba azome yegbe do mitela
wa ago me na no yai ni okon.